progrès en progrès. Et j'aimerais très courtement poursuivre la réflexion autour du psaume 34. Psaume 34 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. On va lire ces versets. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Recherche et poursuis la paix. Donc à partir du verset 10, le psalmiste encourage les saints à craindre l'Éternel, à rechercher la crainte de Dieu en vue de recevoir sa provision et de s'assurer de jours heureux dans le contentement de Dieu. Et trois éléments définissent ici, dans le psaume 34, cette crainte de Dieu. Le premier élément, ou la première facette de cette crainte de Dieu que le psalmiste nous rappelle, c'est la maîtrise de la langue, au verset 4. La maîtrise de la langue. Et puis, la deuxième facette de cette crainte de l'Éternel, le deuxième élément qu'il mentionne, c'est la pratique du bien et le rejet du mal. Et puis, la troisième facette, c'est la poursuite de la paix. La langue, la pratique du bien, le rejet du mal et la poursuite de la paix. Alors, on va être assez court. Mais le premier élément, c'est la langue. De tout temps, la langue a fait des ravages. La langue a fait des dégâts. Médisance, calomnie, fausseté, mensonge, grossièreté, injure, agressivité verbale, etc. De tout temps, la langue a fait des dégâts. Et l'épître de Jacques, que nous connaissons bien, condamne fermement les méfaits de la langue. C'est un petit membre insignifiant, et pourtant il a de grandes prétentions. L'homme a été capable de dompter des monstres marins et toutes sortes d'espèces d'animaux, mais personne n'a été capable ou n'est capable de dompter la langue. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit, si quelqu'un sait garder sa langue en bride, c'est un homme qui est parfait. La langue. Quelqu'un a dit, mieux vaut, les coups sont parfois moins douloureux que les paroles, que les mots. Les coups qu'on reçoit parfois font moins mal que les paroles méchantes. On peut détruire quelqu'un avec une langue. On peut lui faire du mal. L'Éternel dit dans le psaume 149, on peut l'afficher s'il vous plaît, dit dans le psaume 49, verset 3, je vieillis et mes yeux s'affaiblissent aussi. Vous devez être indulgent. Et j'espère que c'est la bonne référence. Psaume 141, verset 3. Ah oui, il dit ici, le psalmiste, très important. Éternel, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ô Seigneur, dit le psalmiste, contrôle ce qui sort de ma bouche, mets un filtre à ce qui peut sortir de ma bouche. Empêche-moi de proférer des injures, toutes sortes de médisances, de calomnies. Veille toi-même sur ma propre bouche, Seigneur. On parle souvent comme notre bouche est faite, hein, comme on dit. C'est difficile de garder sa langue en bride. C'est la raison pour laquelle le psalmiste demande à l'Éternel lui-même de placer un filtre devant sa bouche. L'Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. On devrait faire ça, hein, cette prière, bien souvent. Ne nous arrive-t-il pas, malheureusement, si souvent, de blesser, de heurter la sensibilité de nos frères, de nos sœurs. Deuxième facette de la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal et rechercher à faire le bien. En réaction au salut par les œuvres qui est prôné par certains chrétiens, les chrétiens évangéliques ont tendance à tout miser sur la foi et à s'asseoir dans leur fauteuil évangélique en se gargarisant de la grâce. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit clairement que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres, le bien, les bonnes actions sont aussi la caractéristique du peuple de Dieu. Nous sommes invités à pratiquer, à moult reprises, c'est indiqué dans la Bible, dans la parole de Dieu, à pratiquer le bien. Pratiquons le bien. Tite 3, verset 1, si on peut... comme Jésus finalement, en acte 10, verset 38, mais on ne va pas l'afficher ce verset-là. Notre maître, Jésus, allait de lieu en lieu, faisant bienfait sur bienfait, en faisant le bien. Jésus est passé partout en faisant le bien. Acte 10, verset 38. Nous sommes disciples de Jésus et nous sommes invités à faire la même chose, à faire du bien, de bonnes choses, de bonnes actions partout où nous allons. Jésus, notre modèle, il a parcouru différents lieux faisant le bien. Tite 3, 1, on peut l'afficher celui-là. Donc ici, rappelle-leur d'être soumis au magistrat et aux autorités d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre, ou à toute bonne œuvre. Non, à toute bonne œuvre. Donc, l'apôtre Paul exhorte Tite à ce que lui-même exhorte d'autres chrétiens à la pratique de bonnes œuvres. On continue au verset 8. Voilà, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Une exhortation à faire le bien. Et puis, au verset 14 aussi, si tu peux l'afficher. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Les bonnes œuvres, c'est aussi un fruit que le chrétien est censé produire. Les bonnes œuvres. Un petit peu avant, au chapitre 2, verset 14, Paul, l'apôtre, Tite 2, 14, insiste sur le fait que nous devrions être zélés, motivés dans la pratique du bien ou des bonnes œuvres. Et puis, en Galates, chapitre 6, versets 9 et 10, nous voyons que il y aura une rétribution future. Il y aura une rétribution future, une récompense pour le bien que nous aurons fait. Ça devrait être une motivation supplémentaire pour chacun d'entre nous, ça. Savoir que, dans l'au-delà, dans la présence de Dieu, nous serons non seulement honorés de Dieu, mais nous aurons aussi une juste rétribution, une récompense. Alors, quelle sera la nature de cette récompense? Déjà, rien que le fait de recevoir les honneurs du Seigneur parce que nous avons pratiqué de bonnes œuvres, parce que nous avons fait du bien autour de nous, c'est déjà une récompense en soi. Et puis, il y a le troisième aspect relatif à la crainte de l'Éternel. C'est quoi? C'est celui de rechercher la paix. Rechercher la paix. C'est le psalmiste qui nous y encourage. Hein. Il le dit ici. Hein, recherche la paix et poursuis-la. Recherche la paix. Ce n'est pas quelque chose qui est établi naturellement, mais il y a une dynamique, il y a une recherche qui est faite pour instaurer une relation basé sur la paix. Alors, Romains 12, verset 18, bien sûr, on connaît ce verset-là. Hein. Recherchez, encore une fois, la paix, pour autant que cela dépende de vous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les hommes, pas seulement avec les chrétiens, pas seulement entre nous, pas seulement entre les gens de la maison de Dieu, mais aussi avec les gens d'extérieur. Vivez en paix avec toutes les personnes que nous côtoyons. Nous sommes invités à établir des relations basées sur la paix, sur la quiétude. Évitons de rentrer dans des querelles. Évitons de rentrer dans des conflits relationnel. Évitons de créer des tensions superflues qui constituent en elles-mêmes, eh bien, des ennemis de la paix. Bannissons ces éléments pour que nous puissions établir des relations basées sur la paix. Recherchons et poursuivons la paix, nous dit le psalmiste. Alors, moi j'aime bien aussi l'histoire de Joseph, comme tout le monde, hein. Mais il y a quelque chose dans l'histoire de Joseph, lorsqu'il retrouve ses frères, en Genèse chapitre 45, verset 24, il nous est dit ceci, quand il retrouve ses frères et qu'il remplit leur sac de blé pour qu'ils rentrent en Canaan, il leur fait une courte exhortation. Il sait que ses frères sont belliqueux. Il sait que la famille de Joseph a été détruite à cause des querelles, qu'il y a eu une division. Que le père Jacob a été attristé, que Joseph a souffert le martyr et a traversé l'épreuve, même si c'était voulu de Dieu. Il sait que les querelles sont à l'origine de la destruction de la paix et des relations paisibles. Et il va leur dire ceci, ne vous querellez pas en chemin. Juste cette petite exhortation, ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui rentre dans des disputes, dans des querelles, dans des contestations, dans des tensions. Au contraire, nous sommes invités à rechercher et à poursuivre la paix au niveau de nos relations entre chrétiens, mais aussi avec les gens de l'extérieur. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. On pourrait reprendre chaque point qu'on vient de rappeler ici et les analyser plus en profondeur, bien évidemment. Mais considérons que ces trois aspects qui constituent la crainte de l'Éternel, non pas une crainte servile, une peur liée à une phobie quelconque, mais la crainte, le respect de la personne de Dieu. Eh bien, rappelons que ces trois aspects de la crainte de l'Éternel que nous venons de rappeler sont encore et pleinement d'actualité aujourd'hui pour nous chrétiens. Le peuple de Dieu devrait être un peuple qui est caractérisé par la maîtrise de sa langue. Sachons maîtriser nos langues. Le peuple de Dieu est un peuple qui est caractérisé par la recherche du bien et l'éloignement du mal. Sachons produire le bien autour de nous. Recherchons la pratique du bien. Recherchons la pratique des bonnes œuvres. Le peuple de Dieu est encore un peuple qui veut établir des relations basées sur la paix. Alors fouillons les querelles. Fouillons les conflits. Fouillons les tensions. Toutes ces ennemis de la paix que Dieu veut établir au niveau de nos relations, les uns avec les autres, mais aussi envers ceux du dehors. Voilà. Alors, on termine ici. J'aimerais bien que quelques-uns, une ou deux personnes, prient pour chacun de ces aspects liés à la crainte de l'Éternel. Que une ou deux personnes prient pour la maîtrise de la langue, que nous puissions être maîtres de notre langue, que nous puissions prier le Seigneur qu'il mette comme nous invite à le faire le psalmiste aussi, hein, une garde à la sortie de notre bouche, une garde qui filtre nos propos, tout ce qu'on est susceptible de dire de blessant. Eh bien, que nous puissions demander au Seigneur de nous aider à mettre un filtre devant notre bouche, à quelques-uns. Et puis, qu'une ou deux personnes puissent également intercéder auprès du Seigneur afin que nous puissions rechercher à faire le bien autour de nous. Ce n'est pas une option dans la vie du chrétien. Il y a de multiples appel de la part de l'apôtre Paul, en l'occurrence, à la pratique de bonnes œuvres. Et puis, que une ou deux personnes puissent également prier pour que nous puissions rechercher et poursuivre la paix au niveau de nos relations. Rejeter tout ce qui est belliqueux, querelleur, conflictuel. Recherchons des relations basées sur la paix. Dieu est un Dieu de paix et il veut que ses enfants soient aussi caractérisés de cette même paix au niveau de leurs relations. Que nous puissions saisir les opportunités qui nous sont offertes de faire le bien autour de nous, de faire de bonnes œuvres, de bonnes actions.